Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour en fin d'après-midi pour vous parler de football. Aujourd'hui, nous sommes 20 ans plus tard. Le spectacle d'une finale de Cannes entre les deux meilleures équipes du continent à cette époque-là, les Lions Indomptables, sacrés alors en l'an 2000 et qui avaient vaincu les Super Eagles chez eux à Lagos. C'était donc la finale de la Cannes 2000. Un match épique dont nous allons nous souvenir aujourd'hui, jour anniversaire de cette victoire qui en appelait d'autres. Souvenir avec l'un des principaux acteurs de cette épopée, Patrick Mboma, Patrick Magic Mboma, comme vous dites sur votre compte Twitter. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à tout le monde.
Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être dans Radio Foot International aujourd'hui pour évoquer ce souvenir. Et puis à l'époque, il y avait un très jeune confrère de RFI qui découvrait tout un continent, toute une compétition. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous avez retrouvé surtout des archives, n'est-ce pas, dans votre tiroir?
Sur le dessus du meuble, là, oui, dans ces boîtes en carton, des bandes magnétiques.
Exactement. On les a numérisées.
Joli souvenir.
Et vous pourrez les écouter. Le football africain d'aujourd'hui, quel regard justement portez-vous, Patrick Mboma, sur ces jours actuels où, par exemple, eh bien, le projet d'une CAN tous les 4 ans pourrait être bientôt adopté par la CAF, une nouvelle compétition donc continentale, une nouvelle dimension, et nous en parlerons. Les grands joueurs, les internationaux des grands clubs déjà très sollicités comme Mbappé, Neymar ou Salah, doivent-ils disputer les JO, les Jeux Olympiques? Vous avez bien une opinion là-dessus, Patrick Mboma, vous qui les avez remportés, médaille d'or hein, en l'an 2000.
Oui, mais vous savez, c'est quand même quelque chose de particulier, les Jeux Olympiques, parce que quand on commence une carrière de footballeur, on ne rêve pas nécessairement de gagner les Jeux Olympiques. Et puis ça peut arriver sur le parcours de se retrouver confronté. Déjà, il faut être qualifié. Mm-hmm. Et ensuite, les choses arrivent presque pas totalement naturellement. Les joueurs cherchent à gagner la Champions League, les Cannes, les Euros, les Coupes du Monde. Et puis à un moment, on dit il faut jouer les Jeux Olympiques. Et je pense que quand il y a la qualification, c'est là que ça commence à trotter dans la tête des athlètes. On a suivi les déclarations d'un Kylian Mbappé, par exemple. C'est une façon aussi de défendre les couleurs d'une nation. Et c'est un trophée majeur à remporter. Quand j'ai remporté les Jeux Olympiques, je me suis pris pour Carl Lewis, Salida Wita, j'étais tout le monde à la fois.
Oui,
on a fait partie de cette confrérie.
On y reviendra dans Radio Foot International. Donc, autres invités dans ce studio. Vous n'êtes pas seul avec Christophe Jousset. Il y a aussi, Shérif Guémour à vos côtés. Bonjour, Shérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Une petite précision, c'est pas Patrick Mboma, c'est Attrick Mboma.
Ah bon ?
Commentateur anglais, j'ai vu ça sur YouTube, et c'est comme ça qu'il t'appelle, enfin qu'il vous appelle.
Bon,
très bien.
C'est pas mal. Donc Shérif Guémour de SoFoot, il y a aussi Patrick Juillard de Foot 365 Afrique, bonjour.
Bonjour Annie, vous y arrivez parfaitement.
Hein, ça y est, c'est rodé. Et puis Franck Simon, lui, de France Football, mais Franck, n'est-ce pas notre ami?
Bonjour
Francky
à tous.
Bonjour.
Bonjour
Franck.
Annie.
Radio Foot, machine à remonter le temps, c'est parti.
Pour le Cameroun, nous écoute Jean-François, c'est sûr. Cyril Gobert-Song parvient à transformer ce tir au but, c'est gagné. C'est une troisième Coupe d'Afrique des Nations pour les Lions Indomptables. Il était heureux de jouer, follement heureux, follement excité à l'idée de jouer cette finale, Rigobert Song. Et le capitaine des Lions Indomptables arrive à la seconde de décision sur la limite de la surface de réparation. Rigobert Song qui s'élance et qui marque. Le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Rigobert Song poursuivi par une meute de Lions Indomptables déchaînée. Le Cameroun signe l'exploit. Il remporte cette Coupe d'Afrique des Nations dans le Stadium National, dans le stade du Sourou-Léré.
Une meute de lions indomptables à Lagos, 13 février donc 2000, dans une après-midi étouffante, un soleil voilé sur la capitale économique du Nigeria. Et sous les yeux donc de nos envoyés spéciaux, il y avait Christophe Jousset mais aussi Jean-François Pérez. Une finale qui marquera donc l'histoire de la compétition africaine. Cameroun et Nigeria étaient face à face. On se demandait avec Christophe Jousset en préparant l'émission, Patrick Mboma, sur une échelle de valeur et avec 20 ans désormais de recul, est-ce que vous diriez que c'est l'une des plus grandes finales de Cannes ?
Ouais, honnêtement, entre 2000 et 2019, je ne crois pas qu'il y ait plus belle finale. Et j'étais peut-être moins regardant de ce qui se passait dans les années 80. Mais c'est vrai que sur les deux dernières décennies, je pense en toute objectivité que c'est de loin la plus belle finale.
Franck Simon, vous qui êtes une des mémoires de l'Afrique.
Mémoire d'éléphant, c'est ça ?
Non, mémoire de lion, en l'occurrence.
Maintenant, c'est éléphant, hein, c'est passé à autre chose. Je suis d'accord, ça a été une finale exceptionnelle. Débute, 2 ans plus tard, c'était aussi une finale pour le Cameroun. On n'a pas eu forcément le même spectacle. Et là, franchement, c'était magique, tout simplement. Et puis, ça lançait en plus un peu la campagne pour Sydney. Parce qu'on retrouvera après quelques mois plus tard quelques membres émérites, dont Pat. Mais oui, moi, j'ai aimé vivre. Alors, je n'étais pas sur place. En revanche, pour l'anecdote, je l'avais commenté cette compétition pour Canal Horizon avant Canal Afrique, et je l'avais suivi avec beaucoup de plaisir. Je pensais pas que ça irait au tir au but, et je pense que Pat non plus. Peut-être que c'était parti à 2-0.
À 2-0, on a un poteau, voilà. Donc on se dit c'est dans la poche tout ça. Et ça allait très vite.
Patrick Juillard,
Je partage. Alors, je n'y étais pas non plus. J'ai commencé à couvrir la Cannes qu'à partir de 2004. Donc, j'étais encore
ailleurs.
J'avais encore un regard un petit peu extérieur, mais j'avais suivi bien sûr la finale. Et c'est rare déjà que les deux meilleures équipes incontestablement soient opposées en finale, parce que souvent une des deux meilleures est éliminée avant ou à un match sans et donc ne dispute pas la finale. Et ensuite, c'est un match où des buts interviennent à des moments clés du match, puisque le Cameroun fait une meilleure entame.
On va revenir sur le scénario.
Mais ensuite, le Nigeria arrive à marquer juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires. Donc ça chamboule totalement le scénario qui était un petit peu sur des rails en quelque sorte, et oui, ça donne une dramaturgie unique pour une finale, alors que souvent, régulièrement, les finales de Cannes, c'est parfois pas très enlevé, quoi, hein, et pas que de Cannes, les finales en général des grands tournois, des grandes compétitions de foot, c'est pas souvent les meilleurs matchs, et bien là, c'était peut-être un des tout meilleurs matchs du tournoi finalement.
Cher Guémour, Votre souvenir.
Moi, j'avais pas vu l'intégralité de la finale en direct. J'avais vu des larges extraits, puis par la suite, j'en avais vu d'autres. D'où le commentateur anglais Patrick Mboma. Et c'était une belle finale. Alors c'est marrant, vous menez 2-0, ils célèbrent et jouent. C'est plus le poteau, ça aurait dû faire 3-0, ça aurait dû être plié. C'est comme on est à Lagos, hein, face au Nigeria.
Exactement, ils sont à domicile.
Médaille d'or 96, on a oublié. Première nation africaine, avec Joe Bonfrère qui était encore sur le banc, entraîneur néerlandais. Et après, c'était, ouais, je pense que c'est la plus belle finale de ces 20 dernières années. Après, pour la compétitivité de la compétition, je pense que les éditions 2006, 2008, 2010, avec l'Égypte, avec un plateau hyper relevé, comme le Cameroun, Nigeria, puis c'est un pays du Maghreb, j'ai l'impression que c'était un peu plus relevé, la compétition. Pour la finale, je suis d'accord. Demi.
Alors Christophe, cette Cannes, d'abord, rappelons-le, elle s'était déroulée dans un contexte un peu particulier. On se souvient en 2015, quand il y a eu le changement, alors on ne parlait pas de glissement à l'époque, mais le changement de pays en tout cas, puisque ça s'était déroulé en Guinée équatoriale, alors que ça aurait dû avoir lieu en Libye, hein, si je ne me trompe pas. Et là, c'était pareil, il y avait eu un changement de pays.
Au Maroc.
Ouais, au Maroc, pardon.
La Libye, c'était pour 2013. Mm-hmm. Mais c'est vrai que déjà, il y a 20 ans, on pouvait être obligé de changer de pays. C'était d'abord... le Zimbabwe qui était prévu. Et en fait, comme le Zimbabwe n'était pas prêt pour accueillir cette CAN 2000, notamment à cause des retards dans les préparations de stade, eh bien, on s'est tourné vers une autre solution. Et la CAF a utilisé la co-organisation. Alors, c'est une grande première de voir deux pays organiser un tournoi majeur. On avait vu ça un peu plus tard avec...
Juste avant l'Euro. Avec l'Euro de Lille.
Belgique et Pays-Bas. Et puis, évidemment, la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde
en Asie,
où vous étiez, Asie, ouais. Patrick, Corée-Japon, 2002. Mais là, Ghana-Nigeria, voilà, ça c'est un premier élément de contexte. Ensuite, faut rappeler que cette année-là, le premier buteur de la CAN s'appelait Marc-Vivien Fauré, qui avait marqué le tout premier but pour le Cameroun contre le Ghana en match d'ouverture à Accra.
Suite d'un corner, oui.
Et puis, cette année-là, il y a eu aussi l'épisode de la Côte d'Ivoire qui sort au premier tour. La Côte d'Ivoire était dans votre groupe, Patrick. Et elle finit troisième.
Un but de trop, donc c'est pas...
tout le monde était à 4 points.
Troisième et dernier.
Tout le monde a 4 points. Le Togo et le Ghana aussi.
Ils sont passés à la différence de but premier du groupe.
Attends, troisième différence de but générale.
Générale.
Ouais. Parce qu'après, il y a eu quand même... Il a fallu attendre quelques éditions pour qu'on passe à la différence de but particulière. Mais ouais. Ce groupe-là a été vraiment, vraiment particulier. Quoi. C'est... Ouais.
Et alors, surtout...
Attention, il y a aussi il y a un règlement qui est fait avant la compétition. Mm-hmm. Et quand on joue contre le Togo, c'est parce qu'on sait que on peut même perdre, sachant qu'on s'attendait pas à ce que le Togo nous en mette 4. On pouvait même perdre et on savait qu'on se qualifierait. Et c'est pour ça qu'on a pris le match un peu comme des seigneurs, et ça a failli nous coûter, parce que quand les Togolais ont marqué, on a tout fait pour égaliser, on n'a jamais pu égaliser. Mais si le règlement nous fait savoir qu'il faut absolument bien s'occuper des Togolais, je pense qu'on peut.
Mais c'était bien, je trouve que c'est bien. Ça, dans ce premier tour, ça a été l'un des grands moments de la compétition. Voilà, ces équipes qui se tiennent, etc. Moi, je me souviens de ça. Il y avait de la tension. Tu joues au même moment, etc. Donc, c'est pas ça.
Rien n'était joué. Écrit en tout cas.
Ce qui était très inattendu aussi, c'était le retour des Ivoiriens au pays. Et c'est là où je voulais en venir. Tout le monde se souvient de ces images des Ivoiriens qui se sont fait réprimander et même humilier devant les caméras
publiquement
à la caserne de Zambakro. Et puis enfin. Une autre image qu'on peut évoquer aussi, c'est celle de ce fameux quart de finale entre le Nigeria et le Sénégal, où suite à un but d'Aga Owa dans la prolongation, des dizaines
de ce jour-là. Oui.
Ouais. Celui qui faisait des saltos, en cascade, des célébrations incroyables.
Comme Moses
Simon. Au 20e salto, il disait stop. On lève les bras.
C'est une tradition nigériane reprise par Moses Simon.
Aubameyang aussi. Ouais. Hein.
Et Aga Owa donc marque dans la prolongation, des dizaines de supporters nigériens envahissent la pelouse, et ce jour-là, les Sénégalais, non seulement ils étaient éliminés, mais ils avaient eu très peur.
Ouais. Et donc, il y a eu aussi, eh bien, la demi-finale du Cameroun. C'était contre la Tunisie, n'est-ce pas, Patrick?
1-0.
Oui, alors là, d'abord, bon, on peut rappeler ce premier tour qui s'est joué. Alors vous avez tout joué au Ghana pratiquement, hein. Vous êtes arrivé juste pour la finale, au Nigeria. Au Ghana, nul d'abord un partout avec le pays Ghana. Organisateur, le pays co-organisateur. Victoire 3-0 sur la Côte d'Ivoire, la défaite 1-0 contre le Togo, vous en parliez un instant. Le Cameroun sort en tête de son groupe. Et il s'impose 2-1 en quart de finale contre l'Algérie. Et il gagne également
très gros match.
Des réactions dans le...
Ça venait de à ma gauche.
Je m'en rappelle. J'ai des vagues souvenirs. Ça m'est dans le café où j'avais vu ça, mais bon.
Exceptionnel ce match.
But de Tassaout.
Ouais. Exceptionnel ce match de quart.
Et puis donc une demi-finale avec le Cameroun qui bat la Tunisie 3-0 avec un doublé de Patrick Mboma. Quelle voix aviez-vous il y a 20 ans, Patrick? Écoutez-vous.
Petite voix. Ce sont deux buts qui viennent un point nommé, parce qu'ils sont un peu plus importants. Ils valent beaucoup. À ceux qui m'ont reproché d'avoir manqué les occasions, je répondrai que c'est important maintenant et pas avant. Et je suis heureux parce que l'objectif, un premier objectif est atteint, c'est d'arriver en finale. On en a un deuxième et on va s'atteler à gagner maintenant la CAN.
Cela veut dire que vous allez être surveillé de très près au cours de la finale. C'est évident, vous serez un homme à marquer.
Il y aura 11 lions auxquels les Nigériens devront se méfier, pas un seul.
Enfin, ça vous a mis en confiance. Là, vous êtes très fort avant cette finale.
La confiance n'est jamais partie, mais c'est vrai qu'on est encore plus en confiance parce qu'on avait, à cœur de marquer beaucoup de buts et on l'a fait en demi-finale, donc on se dit pourquoi pas réaliser un tel exploit en finale.
Vous étiez au micro de Gérard Dreyfus.
Il y avait le on avait à cœur, mais il n'y avait pas le à partir de là. Donc ça, c'est pas trop mal.
Ni voilà.
Les matchs les uns après les autres.
Je pense que bon, Laurent Blanc.
Alors ensuite, eh bien, il y a cette finale. La finale donc qui se dispute face au Nigeria. Et on commençait à évoquer ce scénario absolument épique. C'est 90 minutes de jeu. Ensuite, il y a une prolongation. Et on est donc toujours à égalité au bout de 120 minutes de jeu, Christophe.
Bah oui, en fait, on a d'abord eu, on le disait, deux géants du foot africain qui s'affrontent.
Grosse équipe du Nigeria.
Deux équipes qui se sont déjà jouées en finale de la CAN. C'était encore dans les esprits parce que c'était la décennie juste d'avant, 84-88, le Cameroun bat déjà le Nigeria en finale. Vous y pensiez un peu? Ça vous permettait de...
Non,
pas du tout. C'était votre histoire à vous?
Non, voilà. Tout ce qu'on a en tête, c'est que le Cameroun a attendu 12 ans avant d'avoir une nouvelle CAN et que c'était toute nouvelle génération. Exit tous les joueurs de 88. Il y a une nouvelle génération de joueurs. On croyait complètement en nous et on joue le Nigeria parce que c'est lui qui nous est proposé en finale. Mais
vous les craignez?
Aucune...
C'est nigérian.
Oui, les craignait. Oui, enfin ouais. le grand respect, crainte. Parce qu'on savait qu'on irait au bout. On était persuadé qu'on gagnerait.
C'est pour ça que vous êtes décontracté quand vous marquez les deux buts.
On a quand même un grand respect de cet adversaire. La décontraction vient du fait qu'en fait, ils nous ont mis une pression folle avant le match.
Qui ça?
Les Nigérians. C'est-à-dire que déjà, ils sont pas sortis s'échauffer, mais ça, ils ont le droit. Mais le public à l'échauffement nous a hué et conspué.
60 000 personnes.
Et ça nous a quand même, on a été fortement intimidés. Et puis, certains joueurs qu'on était sous le, je dis sous parce que ouais, il fallait sortir du tunnel pour aller sur le terrain. Et certains joueurs ont fait comme s'ils ne nous avaient jamais vus, ils ne savaient pas qui on était. Ils hésitaient à certains, comme Tariq Doboué, à tendre la main pour saluer, pour discuter. Donc on a dit, bon, ben, si vous voulez jouer à ça, ben, de toute façon, ça va se passer sur l'heure de jeu.
Sur le terrain. Franck Simon.
C'est vrai qu'on oublie un petit peu, là, on raconte la rencontre et les faits de match. On oublie franchement le contexte.
Le contexte.
Voilà, on a parlé du stade de Lagos, c'est pas le stade de Lagos, là, c'est pire qu'un stade de Lagos. Je peux vous donner d'autres stades de Lagos, ça se passe bien. Là, c'est Sourouléré. Demandez aux Algériens en 80 comment ça s'est passé en finale. Sourouléré, c'est quand même compliqué, particulier. Christophe y était, c'est le contexte. Ce que vient de raconter Pat, c'est rien du tout, quoi. C'est une cocotte minute permanente. C'est les Nigérians, en fait, qui attendaient ce match depuis longtemps. Eux, leur génération, ils sont tranquilles, ils arrivent, ils sont là pour conquérir. C'est eux qui arrivent pour, c'est eux les chasseurs. Les Nigérians, eux, ils n'avaient qu'une envie. C'était de faire oublier le 84 et 88, où ils ont le sentiment d'avoir été lésés au Maroc en 88, en plus. Donc, pour la génération de Patrick, je veux dire, eux, ils sont dans leur truc, ils vivent les choses pleinement. Ils sont arrivés au dernier moment parce qu'ils ont fait un match à Kumasi pendant la première partie du tournoi, mais le reste c'est à Accra, donc ils étaient au Ghana, ils arrivent au bon moment, ils sont bien, et en face c'est des gars qui ont, je vais pas dire le couteau entre les dents, mais pas loin. Maintenant, il y a une anecdote que je voulais vous raconter, je vais essayer de faire court. Dans l'équipe du Nigeria, il y a un type qui s'appelle Furu Yenemi, qui était réserviste au Paris Saint-Germain. Je l'ai connu 6 mois avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec les Black Stars, on part au Ghana faire une tournée d'été avec les anciens. Tu connais bien les Black Stars. Mmh. Et on racle comme ça à droite à gauche les copains qui peuvent venir. Et donc on dit, bah tiens, il y a un défenseur central, il vient avec nous. C'était un des gars du PSG qui était avec nous dans les Black Stars qui le ramène. Et donc on se familiarise avec Fourreau, qui a jamais joué en pro, en équipe première avec le PSG. 6 mois après, il était en charnière centrale. Il était contre Patrick Mboma. Et voilà, il a été un des héros de cette campagne.
Alors, Furu Yenemi, il a souffert parce que Patrick Mboma était en feu pour cette finale de la CAN 2000. On a revu les images. Vous vous souvenez de ce double contact que vous mettez?
Sur le côté, oui.
Ah, oui. Ouais. Alors, il y a tout. Il y a double contact, plus talonnade, plus éventuellement grand pont, sauf que Furu Yenemi vous a accroché, qu'il a pris un carton, qu'il y a eu coup franc, et que sur le coup franc, c'est là que Samuel Eto'o ouvre le score.
Ouais.
Ensuite, alors là, on est à la 26e. Donc, alors, presque comme systématiquement dans ce tournoi, le Cameroun ouvre la marque assez rapidement. Vous avez souvent marqué en première mi-temps dans ce tournoi. Et puis, vous doublez la marque. Alors là, c'est Patrick Mboma qui marque à la 31e. sur une passe de Samuel Eto'o dans la profondeur, parti à la limite du hors-jeu, frappe entre les jambes du gardien Ike Choronmo.
J'ai revu le VAR plusieurs fois, hein, il n'y avait pas hors-jeu.
Il n'y avait pas hors-jeu.
Ike.
Et les tirs au but,
Ike Choronmo.
Les Nigérians disent pas Ike.
Ike.
D'accord. Ike, j'ai écouté un mauvais commentaire en anglais, alors.
C'est ça.
Prolongation, et on en vient donc à ces fameux tirs au but, où il y a Kanu, vous avez un souvenir précis de ces tirs au but. Kanu, quatrième tireur, qui, son tir est arrêté par Alioune Boukar.
C'est Ikpeba.
Et derrière, Ikpeba, qui frappe sur la transversale.
Voilà, voilà.
Et ça, on en vient vraiment au, à des moments clés.
Online technology.
Donc, Patrick.
Ikpeba frappe son tir au but. Le ballon heurte la transversale. Le ballon rebondit derrière la ligne de but.
Derrière.
Avant de ressortir. Ça, nous, on est en commentaire au poste commentateur avec Jean-François Pérez. Il y a Claude Verlon aussi qui était avec nous pour la technique. Et on revoit les images au ralenti. On voit très nettement que le ballon est derrière la ligne. Les arbitres, eux, n'ont rien vu. Et le public non plus, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'écran,
c'est ce qui est
d'écran géant.
C'est ce qui est important de noter. C'est que moi, j'ai toujours, on en a discuté avec Ikpeba, avec Alioune Boukar, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sur la ligne de but, il y a quand même des milliers de Nigérians. Et personne ne s'offusque. Donc moi, bah, évidemment, au milieu de terrain, pour moi, il y a but. Alioune Boukar, ce bandit, lui, il lève la... lui, il sait qu'il y a but, mais il dit qu'il n'y a pas but. Donc on enlève vite, c'est comme si ça changeait quelque chose, on enlève vite le ballon de là.
Ballon.
Et on ne peut pas reprocher aux arbitres ce que même les Nigérians, sur leur sol, n'ont pas vu. Quoi. Après, pour rester sur ce pénalty-là, on est en train de dire... Parce que, pareil, toujours avec Ikpeba qui m'en parle et m'en reparle, il dit toujours... vous n'auriez pas gagné. Je dis non. Le pénalty de Sang n'aurait pas été décisif, peut-être, mais rien ne dit qu'on n'aurait pas gagné au 6e, au 7e, au 8e.
Donc il faut arrêter si de Ikpeba voir. Avait transformé son tir au but, eh bien, ça ne donnait pas pour autant la victoire au Nigeria.
On va l'écouter, Ikpeba, justement. Vous l'aviez rencontré, hein, Christophe, à l'issue du match, ainsi que Sunday Olisey.
Oui, il était dedans. J'ai entendu qu'il était dedans. Mais comme les habits, il n'a pas sifflé but, ni les juges de touche. Mais je crois que c'est un scandale. Moi, je pourrais pas voir, je suis loin. Quand le ballon il a descendu de le but, il a sorti dehors, je ne pensais pas qu'il n'a pas entré. Mais le lancement avec les buts, ils ont été là. Pourquoi il n'a pas dit que c'était un but?
Vous avez vu tout de suite qu'il avait franchi la ligne, le ballon?
Oui, il était franchi la ligne. On pourrait dire les images. Même les joueurs de BBC disent qu'ils ont vu les images, qu'ils ont déjà passé. C'est déjà dedans.
Perdre de cette façon, c'est ce qui peut arriver de pire.
Il y a ma famille, il y a mon nom, on joue ici. Tu sais, au Nigeria, c'est pas facile quand même.
Ah, qu'est-ce qu'a fait avec Valence? C'était la pénalty, c'est simple. Parce qu'au niveau des jeux, je trouve qu'on avait fait un meilleur jeu. On était surtout aux prolongations. Mais franchement, quand je vois les arbitrages comme ça, je comprends pourquoi on n'a pas beaucoup des arbitres africains aux Coupes du Monde.
Voilà, c'était les...
Petite précision, les Camerounais tapent deux fois sur le poteau quand même.
Oui, il y a eu ça aussi.
Ouais, sur l'ensemble du match...
Non, c'est vrai qu'ils se sont bien repris, ils nous ont surpris, notamment avec ce but de JJ, ouais. Cette égalisation, ça a remis les débats en ordre, mais dire qu'ils ont été bien, enfin Sunday qui dit ça, je dis bon, je l'ai revu les matchs, hein. dire qu'ils ont été bien supérieurs, c'était une très belle finale parce que les deux équipes ont très bien joué.
Mais en fait, je me souviens très bien du regard d'Ikpeba, quand il parle de sa famille, il avait peur pour eux. Je crois qu'il avait peur pour eux. Et en fait, on a entendu souvent dire, et Samuel Eto'o nous l'a confirmé il y a quelques jours, qu'il y a eu des coups de feu autour du stade après le match. Est-ce que vous avez un souvenir de ça?
Je vais être honnête, j'ai jamais parlé de coups de feu, parce que je n'ai pas entendu de coups de feu. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu des coups de feu. Il y a eu de violentes altercations entre les forces de l'ordre et le public, ces altercations ont fait que on a été bloqué environ une heure dans le bus dans le stade. C'est-à-dire qu'on a pris... Vous savez, quand vous gagnez, vous mettez quand même plus de temps que quand vous perdez. Donc, on était après la douche, on était tout contents. On était en train de... On donnait des ordres. On disait, on veut que l'avion vienne nous chercher du Cameroun, ce qui était le cas d'ailleurs. On était tranquille. On rentre tranquillement dans le bus. Enfin, tranquillement. Il y a quand même la police qui nous faisait une belle aide d'honneur pour entrer dans le bus. Et on ne comprenait pas pourquoi tout le monde était là et on ne bougeait pas. Et on a compris qu'on ne pouvait pas bouger parce que il y a eu le besoin de faire sortir tout ce public dans un espace où il n'aurait jamais dû être. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été jetés. Alors c'est super, nous on a été obligés d'éteindre la clim pour éviter de les inhaler. Et en fin de compte, on s'est retrouvés, ça fait cocotte minute. Mais bon, quand il y a la joie de la victoire, on peut passer outre. Mais on a quand même eu peur parce qu'on est resté quand même très longtemps dans le bus.
Celui qui a signé le tir au but vainqueur, c'était Rigobert Song.
Mm-hmm, le capitaine.
Voilà, et on va l'écouter. Rigobert Song, à votre micro, Christophe.
Je pense que là, on marque l'histoire parce que la génération d'aujourd'hui a démontré qu'elle avait énormément de qualités. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que le football camerounais s'est relancé parce que il y a quelques temps, le football camerounais avait sombré et aujourd'hui, on mérite d'être parmi les number one de l'Afrique. On a fait quelque chose d'extraordinaire.
Le capitaine Rigobert Song, quelque chose d'extraordinaire. Vous aviez ce sentiment-là ?
Oui, que c'était extraordinaire.
Surtout après la Coupe du Monde 98 ou pas ?
Mais non.
Ça a été une déception quand même.
Coupe du Monde 98, c'était un petit début de renouveau. On arrive en Coupe du Monde 98, on se qualifie, on est content d'être là. Après, on ne va pas parler de la Coupe du Monde, mais pour peu, on devait quand même se retrouver en huitième.
Il y a quand même un but qui leur est pas attribué.
Qui
vaut cher quand même.
D'accord. Mais même si on se retrouve en huitième de finale, ce qui aurait été quand même bien historiquement, parce qu'on n'a pas, on n'a plus repassé depuis 90 le tour, ça n'aurait pas fait de nous, sur cette qualification, les monstres de l'Afrique.
Ah, puis c'est la Coupe du Monde et Cannes, faut pas mélanger.
Par contre, quand on arrive en 2000, on a le sentiment qu'on peut conquérir le continent. Et je pense qu'on réussit pas seulement en 2000, mais sur les années qui ont suivi.
Dans ce match, il y avait aussi, alors on parlait tout à l'heure, on a cité plein de noms de joueurs sur cette pelouse, c'était vraiment tous des grands joueurs qui ont connu pour certains.
Des deux côtés,
jouaient,
hein.
Exactement.
Pourquoi on les cite pas, Jérémy.
Ça serait bien.
Oui.
Ça serait bien de les citer.
Allons-y,
tous.
La demi-volée d'Okocha pour l'égalisation est quand même un but exceptionnel.
Raphaël Choukou aussi, premier buteur du Nigeria.
C'est un sacré but, ouais.
Et puis Babangida, et puis alors du côté de
Finidi George.
Non, il y avait du lourd.
Incroyable.
Et du côté des Camerounais, il y avait des cadres comme Patrick. Il y avait Raymond Kala derrière,
Jean-Ka.
Et puis des petits nouveaux comme Salomon Olembe. Lorraine Etame Maillard avait marqué aussi beaucoup la compétition, mais Salomon Olembe qui avait même pas 20 ans à l'époque et qui était latéral gauche.
Marco Foé, très important. Mm-hmm. Très important.
Il était milieu gauche. Ouais. C'est Foé qui était latéral gauche. On avait les côtés, c'est extraordinaire. Olembe d'un côté, Jérémy Lorraine de l'autre. Foé au milieu de tout ça, le monstre. C'était. Ce qui était impressionnant, c'est qu'on avait réussi à bâtir sous un 3-5-2, Pierre Lechantre. On avait réussi à bâtir une structure telle qu'on pouvait changer un joueur s'il y avait une suspension, une blessure, mais on avait une force telle qu'on n'arrivait plus à craindre quelque adversaire que ce soit. Mais même Argentine, France, n'importe qui, quoi. On avait vraiment peur de personne. Et je pense que ça aurait été un vrai coup de massue si on n'avait pas gagné cette CAN, parce que on se sentait devenir vraiment supérieur à tout le monde. Et quand on se croit supérieur, mais qu'on n'arrive pas à concrétiser, je pense que ça fait très mal.
Et là, c'était vraiment le début de l'aventure d'une génération.
Et c'était aussi les débuts d'un certain Samuel Eto'o, dont c'était la première grande compétition avec le Cameroun.
Non, il avait fait la Coupe du Monde quand même, en 98. Mais il avait un peu joué contre l'Italie.
C'est là qu'il avait vraiment... Il profite aussi de la blessure de Joseph Désiré.
Il a été très fort pour en profiter. Il était très fort.
À l'époque, il jouait à Majorque.
4 buts quand même, hein, pour un remplaçant.
Autant que vous.
Pour le premier match.
Et pas meilleur buteur avec 4 buts.
Non, c'est déjà 7.
Sean Bartlett qui a fini en tête avec 5 buts le Sud-Africain.
Il n'y en a pas 7 ?
Non, il en avait 5.
Sean Bartlett. De plus que toi.
Seulement.
Alors, Samuel Eto'o était assis à la place de Franck Simon il y a quelques jours, là, dans ce studio, ou juste au-dessus peut-être, et on a profité de son passage pour lui demander quel souvenir il gardait de cette CAN et de cette finale en particulier.
Quelques 45 minutes, 60 minutes avant le match, on arrive dans ce vestiaire, je revois le couloir très étroit, et je tombe sur un Taribo West, presque 2 mètres. Et moi, le jeune garçon qui commençait à peine, et lui qui vient vers moi, il me dit, avec son français approximatif, « Mais c'est toi Samuel Eto'o. Mais il faut que tu dises que tu ne peux pas jouer. » Oh, la peur de ma vie. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais des aînés. Il y avait un Raymond Cala, il y avait un Rigobert Son qui n'était pas très loin et puis qui me chouchoutait à l'époque, tout ça, qui sont revenus et qui m'ont dit « Écoute, tu ne fais l'affaire. » Et dans le vestiaire, je prends la parole après le ministre et puis je lui dis « Excellence, monsieur le ministre, permettez-moi, est-ce que vous pouvez demander à Yaoundé de nous envoyer un avion parce que je rentre avec le trophée aujourd'hui ?» Et je vois la tête de mes aînés qui disent « Mais comment il peut le dire ?» Mais je l'avais déjà sorti. Après, il fallait aller chercher le mat. Et ça s'est plutôt bien passé parce que je marque un premier but incroyable. Et puis, sur le deuxième but de Patrick, je me souviens juste, il me dit « Tu es le meilleur joueur au monde, tu es le meilleur joueur au monde. » Quelle paire d'attaques. Mon meilleur complice d'ailleurs à l'équipe nationale. Mais après, bon.
Souvenir ?
Oui, je me souviens de cette prise de parole où il avait sorti son culot. Mais il avait déjà sorti pendant la compétition. Hein. Avant d'entrer, je me souviens qu'on se retrouvait, on partageait l'hôtel avec les Togolais et les Ivoiriens à Accra, le quatrième équipe étant le Ghana. On partageait les moments à table, c'était très convivial, c'est que des pays francophones, on se connaissait. On restait pas trop longtemps les uns avec les autres, mais bon, quand même, on se saluait et tout. Et puis, à un moment, à table, il vient expliquer... Parce que Joseph Desjardins tombe malade, en fait. Et il vient expliquer avec sa fougue que il faut le faire jouer. Vous allez voir, je vais marquer plein de buts. Et Pierre Lechant l'a pris au mot et il a répondu. Mais c'est on connaît aujourd'hui le personnage. Hein, ça fait 20 ans qu'on on a eu 20 ans à le pratiquer. Et c'est vrai que le culot avec lequel il avait dit ça, ça tombait bien puisque derrière on nous a vraiment envoyé l'avion. Peut-être que ça aurait pas été la même s'il n'avait pas.
Ça y rentrait à pied dans ce cas. En tout cas, Patrick Mboma, cette année 2000 était vraiment la vôtre. Vous jouiez alors en Italie. Hein, ouais. Vous étiez dans le calcio entre Cagliari et Parme à ce moment-là. C'était après le PSG, votre club formateur.
Grand transfert, 6 millions d'euros. Hein.
C'est pas mal pour l'époque.
Et vous êtes un enfant de Bondy.
Oui.
Mbappé c'est un gars du 9-3.
Mbappé est de la ville de Mboma ou c'est Mboma qui est de la ville de Mbappé?
L'ordre de l'aîné, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été. J'ai joué. Non, son père a joué avec moi. Donc je connais très bien les Mbappé.
Mais alors, l'année 2000 de Patrick Mboma, c'est dans l'ordre de la chronologie, vainqueur de la CAN en février à Lagos, champion olympique en septembre à Sydney, je crois que c'est le 30 septembre la finale.
Tout à fait.
Et tout de suite après, 4 jours plus tard, vous êtes au Stade de France.
Ouais.
Et là, vous signez l'inoubliable but.
Ce qui lui vaut aussi.
Se retourner acrobatique.
Gros match. Un match amical énorme. Ouais.
Et il y aura, au bout de tout ça, le titre de joueur africain de l'année 2000.
On se souvient de ce but.
Oh, le but extraordinaire ! Patrick Mboma ! Patrick Magique Mboma ! Stratosphérique ! Féerique ! Fantastique ! On n'a plus de mots! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France! Les 6 ans retournés! Il fallait une étincelle! Il fallait un coup de génie! Et il est venu du pied droit de Patrick Mboma! Extraordinaire! L'égalisation! Superbe!
Non, mais là, c'est le Cameroun qui fait le match nul avec les champions d'Europe en titre.
Un match amical, ouais.
Oh là, champion d'Europe et du
monde. Évidemment, ouais. Non, mais 2000, c'est dans la foulée. Vous êtes champion.
Non, mais je veux dire qu'il y a quand même 4 titres sur le terrain. On peut pas faire mieux.
Mais ça, voilà, c'est le charme des matchs intercontinentaux qu'on voit de moins en moins avec toutes ces ligues des nations et toutes ces inepties.
J'allais voir l'équipe de France à l'époque, ils mettaient des 4-1, des 5-0 à tout le monde.
Et là, ça se termine. Match amical sur 1-1, et donc c'est pas un but du pied droit.
Ouais, c'est un but du pied gauche, parce que déjà, un retourné acrobatique, c'est pas un geste simple, mais
très
en plus,
haut, très, très
on
haut.
Fait du mauvais pied, là, c'est...
C'est sur une longue touche, et le ballon rebondit une fois, et là, vous sentez le coup, vous déclenchez le geste, et il y a Marcel Desailly qui est là, et un peu décoiffé hein, par
il
le
a
geste.
Peur.
Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu un petit mouvement de recul.
Ouais.
Franck.
Sur ce match du Stade de France, et cette performance XXL, en plus des lions indomptables.
Gros match.
On a l'impression que tout ça est logique, quoi, et normal. Sauf qu'ils revenaient de l'autre côté du bout du monde. Vous avez eu très peu de temps à passer, en fait, entre l'Australie et la France, et tout de suite, vous êtes à jouer ce match. Les gens n'ont pas réalisé que vous étiez, vos pensées étaient ailleurs. Je me souviens, j'avais passé 2-3 coups de fil, mais vous êtes arrivé tranquille, vous avez fait votre show, et ça avait donné ce match assez incroyable.
Votre show.
Mais non, mais le Stade de France a vu son premier match 2 ans et demi avant. C'était en début 98 qu'il y a eu le premier match.
L'inauguration France-Espagne.
Donc, pour nous qui arrivions, déjà le simple fait qu'il y ait la possibilité pour le Cameroun de jouer contre la France, c'était déjà événement. Je disais avant le match, je rêvais de voir Roger Milla jouer contre l'équipe de France, ça n'a pas pu se faire. Donc c'est pour vous dire, le temps passe.
Je crois que ça s'est fait en équipe olympique,
oui.
France, mais ça n'arrivait pas avec
les Cameroun. Donc on arrive là, et ça aurait dû être normalement une grande excitation. Et le 3 octobre au soir, quand on fait l'entraînement au Stade de France, si on m'avait dit qu'on était à Noisy-Sec, c'était la même chose, quoi.
Et personne.
C'est surtout que j'avais zéro émotion. Qu'est-ce que j'avais à faire d'un match amical alors que moi je suis encore sur mon nuage et que j'ai une médaille d'or. Le Cameroun n'a pas une médaille et nous on rapporte de l'or. Montrant que le sport qui prédomine au Cameroun, c'est quand même le football. On ramène l'or. J'ai chanté l'hymne national aux Jeux Olympiques. Vous imaginez quand je disais que je me prenais pour Carl Lewis. Mais quand j'ai eu à chanter, mais j'ai crié, j'ai hurlé l'hymne national parce que je me suis rendu compte, mais c'est quand même démentiel ce qui vient de nous arriver. Et vous me dites que 4 jours après, je dois faire un match amical. J'en ai rien à cirer du match amical, mais vraiment rien à cirer. Et je me suis vraiment concentré au moment des hymnes. C'est-à-dire que même pendant l'échauffement, je savais que j'avais des amis qui étaient là, mais ils étaient venus parce qu'il fallait surtout qu'on célèbre après le match le titre olympique. On gagne contre la France, bah, c'est 0 médaille. Donc c'était pas un moment particulier. Il est devenu particulier au moment du coup de sifflet final et puis surtout après avec le but.
Bah justement, les Jeux Olympiques, on va s'en souvenir.
Cameroun se convierte con un marcador final de 7-5 en campeón olímpico. África sigue siendo el número uno en los Juegos Olímpicos.
Les Eto'o, les Mboma, les Tamemayer, les Njita, Bouhomé, Anouldji, Kono, Kameni, et j'en oublie que cela me pardonne. Vraiment, ce qu'ils ont fait pour le Cameroun, c'était formidable. Parce que être champion olympique, ça c'est des moments vraiment irremplaçables dans la vie de quelqu'un.
Une médaille d'or au cou, donc, c'était après la finale Cameroun-Espagne. Et on entendait votre sélectionneur d'alors, c'était Jean-Paul Akono. Et c'est vrai qu'on se demandait, dans l'échelle des valeurs aussi, vous l'avez dit, hein, en disant vous preniez pour Carl Lewis, parce que c'est vrai que les footballeurs, c'est pas le premier trophée ou la première récompense qu'ils cherchent, une médaille d'or en football.
J'ai rêvé de jouer une Coupe du Monde. Et quand j'ai joué et marqué en Coupe du Monde, j'avais l'impression d'un accomplissement. J'avais, ça y est, moi c'était 78, c'est ça qui m'a fait rêver de devenir footballeur. Je voulais devenir footballeur professionnel, je ne savais pas qu'on gagnait de l'argent. Je rêvais de marquer un but devant une foule pleine et en Mondiovision. C'était que ça que j'avais en tête. Bon, après, j'ai appris à aimer l'argent, mais ça, c'est autre chose. les Jeux Olympiques, quand on démarre une carrière de footballeur, demander à un môme de Bondy ou du Paris Saint-Germain s'il a envie de se retrouver champion olympique.
Si, Mbappé.
Là, justement,
oui,
on va y venir.
Mais pas petit. Après, on peut grandir.
Ou quand on a déjà été
avec,
champion du monde,
avec,
en l'occurrence.
Avec cette envie. Ce qui a fait dire à Samuel Eto'o, à juste titre, qu'il a tout gagné, à part une Coupe du Monde. Mais les Jeux Olympiques, et il n'y en a pas beaucoup qui ont. Enfin, je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment tout gagné. Mm-hmm. Il faudrait que Messi gagne la Coupe du Monde pour que lui dise qu'il a vraiment tout gagné.
Eh ben, c'est un peu le cas de Neymar. Neymar qui est pour l'instant dans l'équipe tenante du titre, puisqu'en 2016, devant leur public, les Brésiliens ont remporté cette médaille d'or.
Allez, Neymar, frappé directement! Et quel but! Celui-là, il est magnifique et il n'est pas aidé par le mur allemand. Quel coup franc de Neymar! Neymar qui a fait des pieds et des mains pour assister à ce tournant olympique.
Alors ce match, c'était donc en 2016, et les prochains Jeux Olympiques, alors si le coronavirus nous y autorise, eh bien il y aura des JO à Tokyo, ça sera au mois de l'été prochain, mois d'août prochain.
Fin juillet, début
août. Oui, fin juillet, début août. Et il y a plusieurs grands joueurs du moment qui pourraient se retrouver dans ce tournoi, puisque leurs équipes sont qualifiées. Mohamed Salah.
Alors Mohamed Salah, le sélectionneur des Olympiques égyptiens, Shaoki Gharib, a émis le vœu qu'il soit parmi les trois joueurs de plus de 23 ans à intégrer l'équipe, mais il a dit qu'il n'en avait pas encore discuté avec Salah. Salah a déjà joué, rappelons-le, les JO de 2012, mais voilà. Là, il était moins de 23 ans encore. C'était encore un très jeune joueur.
Ouais. Alors, Mohamed Salah pourrait être sur cette liste. Il y a aussi Neymar, donc, candidat aussi déclaré. Alors, le Paris Saint-Germain, on verra si ça leur plaît ou pas, et s'il est toujours du Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Et puis, on a... l'été, on sait que l'été, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de discussions aussi. Et puis, Mbappé tentait d'étoffer son palmarès, il l'avait déclaré. Mais d'abord, c'est Noël Le Graët, le président de la Fédération française, qui hier ou avant-hier a remis le sujet sur le tapis, et notamment en lui donnant un petit coup de pouce.
Quelque chose qui me tient à cœur, c'est les JO. On n'a pas été depuis longtemps. Ripoll a qualifié son équipe de jeunes.
Avec ou sans Mbappé aux JO?
Celui qui veut, il souhaite. Après, je vais voir un petit peu tout le monde, mais on discutera. Mais c'est compliqué, les dates ne sont pas faciles. Si on va au bout de l'euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps. Mais moi c'est bien, j'ai vu aussi que Neymar voulait jouer avec le Brésil, donc je trouve ça très bien pour le PSG. Ils auront un peu plus de mal à démarrer le championnat et ça sera peut-être plus équilibré pendant quelques matchs.
Voilà ce que disait Noël Le Graët. Et Mbappé, lui, eh bien, il est sur son petit nuage.
Le rêve, ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. Ce serait pas mal. On dit que les rêves, c'est quelque chose d'inaccessible. Donc pour l'instant, ça paraît inaccessible, mais je vais essayer de faire en sorte d'accomplir ce rêve. Pour moi, ce sera ça.
Mbappé qui rêve des JO, Patrick, vous l'encouragez, vous le comprenez, alors qu'il est censé, peut-être, jouer l'Euro le mois d'avant.
Bon, il a plus de chances de jouer l'Euro que les Jeux Olympiques, hormis une blessure.
Oui, bien sûr.
Donc, d'accord. Mmh. Il est gentil, il parle de triplé, mais il y a les coupes nationales. J'aime bien pour le Paris Saint-Germain, pour lui, ça fait pas partie de son palmarès. S'il est champion de France ou... C'est ça.
Il n'en parle même pas.
S'il a la chance de faire toutes ces compétitions, alors... S'il a la chance de les gagner, c'est encore autre chose, parce que là, c'est plus des records. Là, ce serait vraiment imbattable comme parcours. Enfin, je vais répondre à la question. Je le comprends, bien entendu, je le comprends. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les footballeurs sont gâtés par une compétition que tout le monde envie, que tous les sports envient, à savoir la Coupe du Monde. Donc, on peut snober un peu les Jeux Olympiques, mais pour ceux qui réussissent à réaliser, pour les footballeurs qui réussissent à réaliser ce qu'est l'importance des Jeux Olympiques, bien entendu que ça doit se constituer un rêve. Nous, on a eu la chance d'être en finale et donc de passer 3 jours au village olympique. Moi, je pensais que tout naïvement qu'on était d'office dans le village olympique, mais vous ne vous rendez pas compte, la chance d'être au village olympique.
D'être athlète.
On croise tout le monde.
À la cantoche.
Il n'y a personne qui snobe personne. Tout le monde respecte tout le monde, on se pose des questions, vous êtes qui, on voit les... Enfin, certains n'ont pas besoin de demander qui ils sont, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être...
C'est l'élite du sport mondial.
Mais l'élite du sport mondial, il y a tout le monde. Ouais, il y a vraiment tout le monde. Et ça, c'est une chance incroyable, incroyable.
Pour terminer cette émission, Patrick et nos amis, on a réservé une question brûlante, Christophe Jousset, à vous poser. Actuellement, la FIFA, par la voix de Gianni Infantino, et vous étiez à Rabat récemment, mm-hmm. a proposé que la CAN passe d'une organisation à tous les 2 ans à une organisation tous les 4 ans. Il y a bientôt un comité exécutif de la CAF qui devrait étudier cette question. On ne sait pas trop si c'est une suggestion ou une injonction. Vous vous êtes exprimé, Patrick, vous êtes pour cette CAN tous les 4 ans?
Alors, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Je vais être un peu plus précis quand même. Dans l'absolu, la CAN, comme je l'ai vécu et je les ai à place de la tête, il faut la jouer tous les 2 ans. Mmh. Et l'argument d'Infantino, c'est, si je le traduis, la rareté vaut la cherté.
C'est-à-dire l'argent.
Moi, je dis que s'il est capable de donner à la Confédération africaine de football les moyens de gagner plus d'argent tous les 2 ans, ben, qu'il commence à le faire sur tous les 4 ans, ben, qu'il commence à le faire tous les 2 ans, qu'on voit vraiment, parce que si on fait la CAN tous les 4 ans et qu'on se rende compte, moi je suis là à la place des dirigeants pour qui c'est la source de revenus, la CAN, si on passe tous les 4 ans et qu'on a fait 2 fois moins de recettes, eh ben, on peut pas revenir en arrière. Donc s'il a vraiment de quoi donner les arguments aux Africains de faire plus d'argent, comme il dit, 4 fois, 6 fois plus, là, on peut-être voir l'argument de tous les 4 ans. Mmh. Mais l'argument de tous les 4 ans n'est intéressant que pour la FIFA ou l'UEFA. Enfin, c'est pour les Africains, la CAN tous les 2 ans n'a jamais dérangé.
Je pense que Gianni Infantino, il pense à son propre agenda, son agenda de président de la FIFA. Il a créé une nouvelle compétition qui est cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, sorte d'hybride monstrueux qui aura lieu tous les 4 ans en plein été. Et il faut faire de la place. Et donc, pour faire de la place, on espace la CAN de 2 à 4 ans. Le chiffrage qu'il donne 4 à 6 fois plus n'est basé sur strictement rien. Il n'a pas produit une étude, une étude de marché vraiment.
Mais il l'a dit lui-même dans son intervention.
C'est bidon.
Il a dit je suis pas économiste.
Là, on se croirait au café. Bah, c'est dommage quand même quand on gère la FIFA. Ouais, on se croirait au café du commerce. Après, la CAF s'est un petit peu elle-même mise dans l'embarras en décidant de passer à 24 équipes, parce que qui dit 24 équipes dit des exigences d'infrastructures plus grandes et moins de pays capables de l'organiser. Donc, c'est un peu la faute à tout le monde, finalement.
Franck ?
Et les joueurs dans tout ça ? On y pense aux joueurs, on leur demande, on leur pose pas la question. Tu préfères tous les deux ans.
Moi,
voilà.
Je suis joueur tous les 2 ans. Même si j'avais quelques soucis avec
c'est
avec
ça. Ça reste,
est-ce que vous êtes sûr, Patrick, que les joueurs d'aujourd'hui pensent comme vous et ont majoritairement une préférence pour tous les 2 ans?
Je peux pas être sûr. Il faut leur demander. Mais je vois pas pourquoi ça changerait. C'est un vrai kiff de jouer de jouer la Coupe d'Afrique des Nations.
Deux petites choses. L'Afrique est un continent jeune. Politiquement, le fait que tout le football africain, toutes les nations africaines se retrouvent tous les 2 ans, c'est super important. Même si les stades sont vides, ça fait vibrer toute l'Afrique. Et argument supplémentaire, la dernière CAN a vraiment électrisé les foules. Il y a un renouveau pour les sélections. Donc je réponds en partie à la question. Patrick, il est footballeur.
Il y aura du monde au Cameroun à la CAN.
Ah oui.
Pour l'instant, on reste à 2 ans. Voilà, pour l'instant, on reste à 2 ans. L'Afrique est un continent jeune et on a besoin de cette compète tous les 2 ans.
C'est la fin de ce Radio Foot International, où on a quand même mêlé les souvenirs et l'actualité. Merci beaucoup, Patrick Mboma, d'être venu.
Réel plaisir.
Patrick Mboma, je le rappelle.
De vous voir, c'est pas si souvent. Par contre, Franck, je commence à en avoir marre. Entre les Black Star, Canal et tout ça, à un moment, il faut nous séparer. Quoi.
Merci à Pierre Guérin, à David Finzel et à Alice Ménard aujourd'hui à la réalisation. Vous dis à demain.